Il arrive encore qu'un uluberlu harangue les passants dans une bouche de métro pour les menacer d'un châtiment divin. Nul ne le prend au sérieux et les bonnes gens ne comprennent pas qu'il ne soit pas dans un asile. C'est aussi ce que pensaient les classes dirigeantes d'Israël de Michée, pourtant prophète authentique de l'Éternel. Dans les deux premiers chapitres de son livre, il prédit sans relâche la venue du jugement de Dieu contre les royaumes de Juda et des 10 tribus du Nord. Mais il écrit également que la nation d'Israël serait rétablie et bénie. Michée possédait cette certitude à cause des promesses déjà faites à d'autres écrivains sacrés par l'Éternel qui avaient promis à leur ancêtre Abraham qu'il aurait une postérité nombreuse et qu'il l'établirait en Palestine. Au travers de Moïse, Dieu avait garanti à son peuple qu'il le bénirait abondamment en terre promise. Plus tard, il a dit à David qu'il aurait une descendance et un trône perpétuel. Les prophètes aussi écrivent qu'un jour, et quoi qu'il arrive, l'Éternel étendra sa bénédiction sur son peuple parce qu'il l'a promis. C'est ainsi qu'Ésaïe, contemporain de Michée, prophétisa qu'après l'exil du royaume de Juda, Dieu le rétablirait à nouveau. Le thème du jugement, qui revient tel un disque rayé dans les livres prophétiques, remonte au livre du Deutéronome. C'est Moïse qui a mis en garde les Israélites qui étaient sur le point d'entrer en terre promise des dangers qui les attendaient. Tous les adultes de la génération précédente, à l'exception de Caleb et de Josué, étaient morts dans le désert parce qu'ils avaient refusé d'obéir à l'ordre de l'Éternel de prendre possession du pays de Canaan qu'il leur donnait. Moïse a donc dit à la nouvelle génération qu'ils avaient le choix entre d'une part obéir aux clauses de l'alliance de la loi que Dieu avait conclue avec eux et vivre en paix et dans la prospérité dans leur pays, et d'autre part, se rebeller contre l'Éternel et être maudit en subissant des invasions d'insectes, la famine, la guerre et finalement l'exil. Suite à cet avertissement de Moïse, la majeure partie des récits et des prophéties de l'Ancien Testament ont pour thème la faillite d'Israël à respecter le contrat d'alliance. Michée et Amos sont les deux prophètes qui ont le plus insisté sur la corruption des classes dirigeantes des deux royaumes israélites. Je commence à lire le premier chapitre du livre de Michée. Voici les paroles que l'Éternel a adressées à Michée de Moréchette sous les règnes de Jotham, Akaz et Ézéchias, roi de Juda. Cette révélation reçue par Michée concerne les villes de Samarie et de Jérusalem, verset 1. Samarie et Jérusalem étaient les capitales respectives du royaume des 10 tribus du Nord et de Juda. Les trois rois mentionnés par Michée ont régné sur Juda en gros pendant 75 ans. Les 60 dernières années du 8e siècle avant Jésus-Christ et les 15 premières du siècle suivant. Michée ne mentionne aucun roi du royaume du Nord parce que dans l'absolu, ce sont des usurpateurs puisqu'ils ne font pas partie de la lignée de David. Deux autres prophètes, Ésaïe et Osée, ont été appelés par Dieu à exercer un ministère sous ces mêmes rois et ils commencent le livre qui porte leur nom d'une manière très similaire à Michée. Je lis ces introductions. Révélation reçue par Ésaïe, fils d'Amoz, au sujet de Juda et de Jérusalem sous les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda. L'Éternel adressa la parole à Osée, fils de Béhéri, sous les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Akaz et d'Ézéchias, roi de Juda, et sous le règne de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La seule vraie différence entre Ésaïe et Osée d'une part et Michée d'autre part, est que ce dernier ne mentionne pas le nom de son père, probablement parce que c'était un illustre inconnu. Michée était originaire de Moréchette, une bourgade située à 35 km au sud-ouest de Jérusalem, proche de Gath, une ville-état des Philistins, et à 35 km de Tekoa, lieu de naissance du prophète Osée. Bien que Michée ait prophétisé à Jérusalem, son premier oracle annonce la ruine de Samarie, ce qui aura lieu en 722-721 avant Jésus-Christ, aux mains des Assyriens. Michée, comme de nombreux prophètes, déclare sans nuance qu'il parle au nom de l'Éternel. Dieu voulait que son peuple réagisse intelligemment à sa parole et prenne les bonnes décisions. Il faut savoir que le judaïsme contrastait fortement avec les cultes païens de l'époque qui reposaient sur des rites de fertilité en compagnie de prostituées sacrées où l'expérience sensuelle était la forme la plus élevée de l'expression religieuse. Je ne vais pas vous faire un dessin et je continue le texte. Écoutez, vous tous, peuple, prête attention aux terres, et vous tous qui vivez sur elles, le Seigneur l'Éternel sera témoin à charge contre vous. Le Seigneur va vous accuser depuis son sanctuaire. Verset 2. Nous sommes dans une sorte de tribunal cosmique où l'Éternel, qui est assis dans son sanctuaire céleste, est le juge. Michée parle au nom de Dieu et intente un procès à son peuple infidèle. Toute la terre et tous les peuples sont invités comme témoins à écouter les paroles du prophète, car c'est le Créateur qui parle par son serviteur. Les menaces vont être adressées à Jérusalem et à Samarie, car, ayant seule jusqu'ici reçu la révélation de Dieu, elles seules peuvent déjà être jugées. Cependant, les autres peuples sont concernés, parce que la sentence qui va être prononcée n'est que le premier acte du jugement universel. Le prophète Osée aussi avait utilisé l'image du procès que le Dieu de l'Alliance engage, intente, à Israël. C'est de cette manière que dans le Proche-Orient ancien, une nation suzeraine exposait ses griefs contre un vassal déloyal et lui demandait réparation. D'autres que Michée ont déjà pris le cosmos comme témoin à charge et ce n'est que justice, car comme le dit le roi David, la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel, l'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Vers la fin de sa vie, dans un cantique, Moïse avait célébré la grandeur de l'Éternel en disant « Au ciel, prête l'oreille, je parlerai, et toi, ô terre, écoute ce que je vais dire ». Plus d'un siècle avant que ne paraisse Michée de Moréchet, un homonyme, Michée de Yimla, dénonçait les faux prophètes. Lui aussi avait dit « Écoutez, vous tous les peuples !» prenant ainsi à témoin toutes les nations contre Akab, roi idolâtre d'Israël Nord. Michée de Yimla avait alors prédit que si Akab allait au combat contre les Syriens, il serait tué. Et c'est ce qui arriva. Il semble donc que Michée de Moréchet exerce un ministère qui est la continuation de Michée de Yimla. D'ailleurs, plusieurs expressions similaires se retrouvent chez l'un et l'autre. Plus loin, dans le texte qui nous occupe, il sera question de ceux qui courent après le vent et mensonge, alors que Michée de Yimla mentionne deux fois la présence d'un esprit de mensonge chez les faux prophètes. L'un parle du vent et l'autre d'un esprit, mais en hébreu, c'est le même mot. Les deux Michées parlent aussi de cornes de fer et de frapper sur la joue. Finalement, Michée de Moréchet rejoint son homonyme quand il dit « On s'attache à garder les préceptes d'Omri ». On suit l'exemple de toutes les pratiques de la maison d'Akab. Oui, vous vous conduisez selon leur tradition. Ces deux rois, Omri et Akab, furent parmi les pires que le royaume du Nord a connus car ils entraînèrent leur peuple à des actes idolâtres odieux en rendant un culte aux divinités de la fertilité. Ésaïe, qui débuta son ministère prophétique avant Michée de Moréchet, a lui aussi commencé sa prédication en disant « Vous, les cieux, écoutez, toi, terre, tends l'oreille, c'est l'Éternel qui parle. » Le témoignage du cosmos n'est pas une simple figure de rhétorique car le jugement d'Israël a des répercussions sur les nations païennes et sur l'avancement du plan du salut. Je continue le texte. Voici que l'Éternel sort de sa résidence. Il va descendre, marcher sur les sommets, les hauteurs de la terre. Verset 3. Alors que d'habitude, l'Éternel se tient caché, il est tellement offensé par les péchés de son peuple qu'il sort de son palais. Dans un langage majestueux, Michée le voit qui vient sur terre afin d'exercer ses jugements. Ici, Michée emprunte à son prédécesseur Amos qui a écrit « Attention, c'est l'Éternel qui a fait les montagnes, qui a créé le vent. C'est lui qui des ténèbres fait naître l'aube, lui qui marche sur les sommets, les hauteurs de la terre. » Les deux prophètes décrivent Dieu qui se déplace à pas de géant d'une montagne à l'autre. C'est aussi sur des sommets qu'étaient bâties les villes et les capitales comme Jérusalem et Samarie afin de pouvoir être défendus contre un éventuel envahisseur. Je continue le texte. Sous ses pas, les vallées se fendront au milieu, les montagnes fondront comme la cire au feu, comme de l'eau versée, coulant sur une pente. Verset 4. Le prophète voit l'Éternel enveloppé d'une tempête redoutable, accompagné d'éruptions volcaniques et d'un tremblement de terre d'une magnitude bien au-delà de celle qui a jamais été enregistrée sur l'échelle de Richter. Ces images qui rappellent ce qui s'est passé quand l'Éternel a donné la loi à Moïse sur le mont Sinaï ont pour but de montrer que l'expression de la colère de Dieu revêt un aspect terrifiant qui remplit la terre d'effroi car rien ne peut lui résister. Bien que son jugement ne frappe que les hommes, par contre-coup, la nature inanimée est ébranlée. Devant le juge de la terre et du ciel, toute grandeur s'efface. Et quand il pose le pied sur les montagnes, qui représentent pourtant stabilité et puissance, elles disparaissent comme la cire au feu. Le psalmiste écrit « La terre s'ébranle et chancelle, les fondements de ces montagnes se mettent à frémir, tout secoué par sa colère. Il courbe le ciel et descend, un sombre nuage à ses pieds. De l'éclat qui est devant lui jaillissent des nuages, du feu et de la grêle. L'Éternel tonne dans le ciel, la voix du Dieu Très-Haut résonne parmi la grêle et dans le feu. Que Dieu se lève, et voici ses adversaires sont dispersés, ses ennemis fuient devant lui. Tu les dissipes comme une fumée légère qui se dissipe, comme la cire qui fond au feu. Ainsi périssent tous les méchants par devant Dieu. » Je continue le texte de Michée. Et pourquoi tout cela? À cause de la rébellion des enfants de Jacob, à cause des péchés du peuple d'Israël. Qui incita Jacob à cette rébellion? N'est-ce pas Samarie? Et à cause de qui ces hauts lieux sont-ils en Juda? C'est à cause de toi, Jérusalem. Verset 5. Le nom Jacob apparaît 11 fois dans le livre de Michée. Ici, il représente le royaume des 10 tribus du Nord. Une fois, il désigne le patriarche, et les 9 autres fois, c'est un synonyme pour les 2 nations israélites confondues. Samarie, capitale du royaume du Nord, et Jérusalem, capitale de Juda, sont personnifiés, mais ce sont aussi des foyers d'infection morale et spirituelle à cause des rois et des classes dirigeantes qui entraînent leur peuple dans toutes sortes de péchés et surtout dans l'idolâtrie. Ce sont les chefs qui donnent la cadence, c'est le mauvais exemple, ce qui fait qu'on trouve la corruption la plus grande et les pires exactions dans les capitales, ce qui accroît d'autant la culpabilité des grands des 2 royaumes. Tout a commencé avec les abus de Salomon, qui furent suivis par la stupidité de son fils, héritier de la couronne, ce qui entraîna la scission d'Israël en 2 royaumes. Jéroboam, premier roi d'Israël Nord, ne voulait pas que son peuple se rende à Jérusalem lors des trois fêtes annuelles obligatoires ou pour offrir des sacrifices au temple, car il craignait pour sa couronne. Il avait peur qu'Israël Nord ne retourne dans le giron de Juda. Alors, pour assurer son trône, il institua un culte idolâtre dans son royaume. Je lis le passage. Le roi fit faire deux veaux d'or et déclara au peuple « En voilà assez avec ces pèlerinages à Jérusalem. Voici votre Dieu, Israël, celui qui vous a fait sortir d'Égypte. L'Éternel les abandonnera à cause des péchés que Jéroboam a commis et à cause de ceux dans lesquels il a entraîné le peuple. » L'expression « la rébellion des enfants de Jacob » que Michée utilise pour désigner les péchés du royaume du Nord a une signification à la fois politique et religieuse, car elle rappelle d'une part l'institution du culte du veau d'or et d'autre part l'abandon de la dynastie de David. Omri, le fondateur de Samarie, suivit la voie idolâtre tracée par ses prédécesseurs, mais en plus mal. Son fils Achab fut encore pire, puisqu'il épousa Jézabel, une princesse phénicienne, qui était aussi une véritable tigresse au tempérament masculin. Elle poussa son mari faible et indécis à introduire le culte de Baal et à construire à cette idole un temple à Samarie. Jéhu, le fondateur de la quatrième dynastie des rois d'Israël Nord, se borna à rétablir la situation qui prévalait au temps de Jéroboam, le premier roi, et ainsi de suite jusqu'à la fin politique du royaume du Nord, un châtiment inévitable, puisque Israël Nord n'eut pas un seul roi fidèle à l'Éternel. Michée mentionne les hauts lieux en Juda. Comme son nom l'indique, ils étaient situés sur une hauteur, une colline ou une montagne. C'était là que les païens venaient rendre un culte à leurs idoles. Les Israélites, pour leur part, adoraient l'Éternel un peu partout dans le pays. Mais après que David ait établi le sanctuaire de l'Éternel à Jérusalem, les Israélites étaient supposés se rendre en ce lieu pour y adorer Dieu. Mais beaucoup d'entre eux, attirés par les cultes païens, abandonnèrent l'Éternel et se tournèrent vers les faux dieux, surtout dans le royaume du Nord, mais aussi dans Juda. Au temps du prophète Michée, cette pratique avait même cours dans Jérusalem. Voilà pourquoi Michée appelle la ville sainte les hauts lieux de Juda. Dans le royaume israélite du Sud, à l'exception d'Ézéchias, même les bons rois, comme Ozias, n'osèrent pas supprimer les hauts lieux du pays parce qu'ils craignaient le peuple ou avaient eux-mêmes un penchant pour l'idolâtrie. Le roi Joas, par exemple, a bien commencé son règne puisqu'il est dit de lui qu'il eut à cœur de restaurer le temple de l'Éternel. Mais après la mort de son protecteur, le grand prêtre, qui avec sa femme lui avait pourtant sauvé la vie, il tourna casaque, favorisa l'idolâtrie et fit même mettre à mort Zacharie, prophète, et le fils de son protecteur décédé. Amatsia, fils de Joas et père de Ozias, commença à peu près bien. Mais après sa victoire militaire contre les Édomites, le texte dit qu'il rapporta les statues de leur dieu et en fit ses propres dieux. Il se prosterna devant elles et leur offrit des parfums. Quant au roi Achaz, il pratiqua le paganisme le plus grossier au point de faire passer son fils par le feu en sacrifice aux idoles. Pourtant, son père Jotham était un assez bon roi et son fils Ézéchias fut le meilleur. C'est à y perdre son latin. Je continue le texte. Aussi vais-je réduire Samarie à un monceau de pierres dans la campagne, et l'on y plantera des vignes. Je précipiterai ces pierres au fond de la vallée, et je la raserai jusqu'en ses fondations. Verset 6. Samarie était bâtie au milieu d'une large et fertile vallée sur une haute colline à pente fortement verticale. Quand elle fut conquise, ses pierres furent jetées dans la vallée et aujourd'hui encore, ses ruines sont visibles. Parce qu'elle était mûre pour le jugement, cette capitale a eu l'honneur d'être la première à subir le châtiment divin. Il faut dire que le royaume israélite du Nord était tombé au plus bas. En plus d'une idolâtrie rampante, la période qui précéda la fin de la nation fut remplie d'intrigues et d'assassinats politiques. Après la victoire des Assyriens, la majorité de la population d'Israël Nord fut déportée et remplacée par des peuples païens afin de créer des intermariages avec les Israélites restants. C'est l'origine des Samaritains dont il est souvent question dans les évangiles. Pour ce qui est du jugement de Jérusalem, son tour viendra. Un peu plus loin, Michée dit « Rasez-vous donc, arrachez vos cheveux, habitants de Jérusalem. Oui, rasez-vous la tête pour que vous soyez chauves, pareil à des vautours, parce que vos fils vont être emmenés loin de vous en exil. Sion sera labourée comme un champ et Jérusalem deviendra un tas de ruines. » La montagne du temple sera une colline couverte de broussailles. Dieu est lent à se mettre en colère, mais quand il juge, son châtiment est impitoyable.